Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 15 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Lecravert et aujourd'hui je reçois Florence Boson. Multipotentielle, Florence est allée à la rencontre des humains, des plantes et des pierres pour comprendre les différentes vibrations du vivant. Elle choisit aujourd'hui de créer des objets infusés du sacré de son âme, de son cœur et de ses connaissances. Pour elle, mettre tout qui tu es dans tes créations les rend de magique, et alors les miracles arrivent. Vous pouvez la trouver sur le site miracleshappen.fr. Si vous aussi sentez que la matière peut être un chemin de lien à l'invisible, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et je vous laisse maintenant découvrir Florence Boson. Bonjour Florence.
Bonjour Joëlle.
Et bonjour à toutes, bienvenue. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Florence Boson, sur ce podcast, Un instant, une vie. Je propose que tu te présentes. Qui es-tu aujourd'hui ?
Qui je suis aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis... dans mon quotidien, je suis avant tout une entrepreneuse et une mère, puisque j'ai trois enfants et mon identité de mère est quand même le noyau de ce que je suis. Et puis dans la réalité de ma vie d'aujourd'hui, je suis une entrepreneuse puisque j'ai une entreprise qui a maintenant 9 mois, je crois, et qui me prend beaucoup de temps et dans laquelle je me suis énormément investie. Donc je me sens aujourd'hui femme assez forte quand même, indépendante et en train de prendre vraiment sa vie en main dans le réel et dans le monde. Ce que j'ai pas toujours su faire avant, voilà.
Une femme forte en train de prendre ta vie en main dans le réel et dans le monde.
Exactement.
Et qu'est-ce qui t'a permis de devenir cette femme forte que tu es aujourd'hui ?
Je pense que c'est l'accumulation, enfin comme tout le monde, hein, je pense l'accumulation d'expériences, certainement aussi une part de ma nature, mais en tout cas de ce que je peux comprendre et ressentir, c'est surtout une accumulation d'expériences à travers l'enfance d'abord, puis toutes les expériences de vie qui m'ont construite et les épreuves que j'ai traversées au fil du temps, que ce soit au niveau familial, puis au niveau personnel. Alors pas au niveau professionnel, puisque j'ai jamais eu de grande épreuve au niveau professionnel, puisque j'ai beaucoup été sans vie professionnelle, même si je travaillais beaucoup en tant que mère de 3 enfants. Mais oui, je pense que c'est ce qui nous construit, c'est toutes les joies, enfin ce qui m'a construite en tout cas, c'est toutes les joies que j'ai rencontrées, mais aussi toutes les épreuves qui ont fabriqué peu à peu, brique par brique, la personne que je suis aujourd'hui et qui est toujours en construction, bien sûr.
Lors de nos différents partages, tu as souvent évoqué tes voyages et tes découvertes du monde. Comment est-ce que, pour toi, tout ça, ça t'a aidé à te construire ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mal voyagé, enfin beaucoup moins que beaucoup de gens, mais beaucoup plus que beaucoup d'autres. J'ai grandi un petit peu à Singapour, toute petite, hein, j'en ai pas de souvenir conscient. Et puis surtout au Brésil, ça par contre je m'en souviens bien puisque j'en suis partie à l'âge de 6 ans. Donc c'est un peu ma deuxième langue maternelle et ma deuxième culture. Et c'est vrai que ça m'a énormément enrichie, ça j'en suis sûre. Et ensuite, j'ai gardé le goût du voyage qui m'avait été inculqué quand même par mes parents, puisque mon père travaillait sur des plateformes de forage quand j'étais petite. Et c'est pour ça qu'on est allé à Singapour et surtout donc à Rio, où j'ai vécu quelques années. Et j'ai gardé en fait ce goût du voyage. Et dès que j'ai été adolescente, j'ai voyagé dès que je pouvais, en fait. J'ai commencé à aller en Tunisie, en Égypte, même très près, ne serait-ce qu'en Espagne, en Hongrie, en Allemagne, enfin, partout où je pouvais. Et finalement, jusqu'à mon plus grand, long voyage, disons, qui a été pendant mes études. Je me suis arrêtée pendant un an pour voyager dans l'océan Indien, donc La Réunion, Mayotte et surtout Madagascar. Et c'est vrai que ça fait partie de ma construction, oui, t'as raison. Cette espèce d'ouverture au monde, cette curiosité, surtout une grande curiosité sur les croyances du monde, comment les gens se construisent en fait et comment les cultures s'articulent autour de croyances et autour de, je sais pas, d'idées ou de superstitions ou de, enfin voilà, c'est vraiment ce qui me touche le plus quand je voyage, c'est de comprendre qu'est-ce qui anime les gens. Après, j'ai aussi voyagé dans des pays plus occidentaux comme les USA, où j'ai aussi beaucoup apprécié toutes ces rencontres et toutes ces différentes façons de penser qui, moi, me nourrissent infiniment. Oui.
Je sais que tu as aussi, dans ton rapport au monde, un rapport fort à l'invisible. Est-ce que tu as l'impression que le fait de voyager, d'aller à la rencontre du monde matériel, enfin, du monde des gens et des différents pays, a contribué à nourrir ce fil-là également ou pas? Je ne sais pas si je suis très claire.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas l'impression que ce soit lié. J'ai l'impression que la partie voyage est très extérieure, en fait. C'est mon ouverture au monde. Et surtout, tout l'intérêt intellectuel, en fait. C'est quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Alors que mon rapport à l'invisible, c'est quelque chose de très intérieur. C'est quelque chose qui m'accompagne, en fait, très près de moi. Et que j'ai jamais, beaucoup partagé, dont j'ai jamais beaucoup parlé. Déjà parce que je viens d'une famille, qui est 100% athée, matérialiste à 2000%. Et, donc vraiment pas du tout ouvert, enfin, absolument pas ouvert à tout ce qui peut être invisible, croyance, religion, etc. C'est vraiment presque interdit chez moi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé dans ma vie, et puis parce que j'ai eu du mal aussi du coup à prendre contact avec cette part de moi pourtant qui s'imposait, avec des expériences assez fortes de prémonition, enfin des choses assez, en plus très vérifiables, puisque j'arrivais vraiment à les dire tout de suite quand je les avais, donc j'avais plein de témoins qui pouvaient voir quand les choses se réalisaient ensuite. Mais oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas laissé une grande place à ça quand j'étais plus jeune dans ma vie. Et puis bon, c'est le genre de choses qui quand même te rattrape un jour. Tu peux pas vraiment faire abstraction. Donc, mais après, j'y suis plutôt revenue par le biais des plantes, des pierres et du ressenti avec la nature, en fait, qui s'est croisée avec un intérêt intellectuel et sensible pour les cultures et les croyances du monde, toute la vie spirituelle des différentes civilisations que j'ai étudiées pendant des années pour le plaisir et puis dont j'ai fini par faire mon activité. Mais voilà, ça s'est passé par ailleurs.
Donc tu es psychologue?
Oui, je suis psychologue, oui. Une psychologue un peu atypique, hein, puisque
Ouais.
Je m'étais assez vite tournée vers l'hypnose, puis vers des soins énergétiques, des choses un peu moins académiques, par intérêt personnel, et puis ça peut surprendre, mais par souci déontologique, en fait.
D'accord.
Je trouvais que les techniques qu'on nous apprend à la fac était très intéressante intellectuellement, mais dans le réel, je constatais, surtout dans les gens que je voyais qui fréquentaient des psys, qui consultaient des psys, je trouvais que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Vraiment. Et je sais que c'est un peu un gros mot de dire ça à la fac, mais pour moi, quand on est psy, on doit donner un service. Alors ça, c'est vraiment inaudible, hein, la fac, ce que je viens de dire là, dans le système universitaire, c'est interdit. Mais moi, j'estime que le psy, il n'est pas au-dessus des gens, et que quand la thérapie ne marche pas, c'est pas systématiquement que le patient résiste, c'est que le psy n'a pas la bonne technique. Et s'il ne va pas mieux au bout de 10 séances, ou s'il n'y a pas un résultat, quel qu'il soit, au bout de 10 séances, il y a quand même une question à se poser sur nos propres techniques et sur le fait que des gens payent et viennent pour quelque chose et doivent quand même repartir avec quelque chose, quoi. On est là pour les aider, pas juste pour se dire « Oh, je suis psychologue, donc je sais comment les gens fonctionnent. » J'ai trouvé ça assez difficile à la fac à accepter. Et c'est pour ça que dès que j'ai quitté la fac, j'ai commencé à me former à d'autres choses complémentaires qui vraiment aidaient les gens concrètement et leur permettaient de ne pas repartir exactement comme ils étaient venus, quoi. Avec juste... Parce que si tu viens chez un psy parce que tu as des problèmes de communication avec ton conjoint, par exemple, et que pendant 3 ans, tu vas parler de ton enfance sur un divan, c'est très intéressant. Je suis sûre qu'intellectuellement, tu vas mieux te comprendre, que tu vas faire une vraie introspection, etc. Mais en 3 ans, tu as le temps de divorcer 10 fois.
Ouais,
alors que
ouais.
Tu es venu avec une demande quand même. Et je trouve qu'on peut pas complètement ignorer la demande de la personne.
Ouais.
Elle vient pour quelque chose et on doit s'y atteler, quoi.
Et donc, toi, tu as commencé à découvrir et à explorer le monde des plantes, le monde des pierres, comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que ça t'a permis d'accompagner différemment ?
Oui, tout à fait. Bon, en fait, les plantes, moi, j'ai grandi à la campagne et voilà, j'ai toujours bu des tisanes. Enfin, je me suis toujours intéressée aux plantes, là, vraiment, depuis l'adolescence. Ensuite, je me suis vraiment intéressée aux plantes par rapport à la santé quand je suis devenue adulte, puis quand j'ai eu mes enfants, parce que j'ai eu mon premier enfant assez jeune. Et voilà, j'ai voulu qu'on se soigne autrement, et c'est là que je suis entrée vraiment dans l'univers des plantes. En fait, au bout de quelques années, je les connaissais tellement que j'ai commencé, enfin, je soignais déjà donc mes enfants, ma famille, puis au bout d'un moment, ben, mon entourage, en fait, mes amis, et j'ai commencé ensuite à sentir les plantes. En fait, tu vois un peu l'esprit de la plante. Enfin, je comprends ce que scientifiquement ce qu'elle fait. Oui, j'ai fait une école d'herboristerie aussi, mais au-delà de ça, je me disais, ah oui, mais physiquement, oui, elle fait ça, mais par contre, voilà, je sens mieux celle-là pour ça, dans son esprit, quoi. Bon, c'est un petit peu abstrait ce que je dis là, mais c'est comme une familiarité qui s'est créée, en fait. Et puis aussi, j'ai commencé à connaître, à travers le développement personnel, que j'ai commencé très tôt, puisque là, comme j'avais eu une enfance un peu compliquée, j'ai demandé dès l'âge de 12 ans à faire une thérapie, et j'ai commencé à faire des thérapies à cet âge-là, et ensuite j'ai enchaîné plein de thérapies différentes, puis j'ai fini par faire psycho moi-même, et je suis allée très vite vers le développement personnel qui souvent, à mon avis, apporte plus de résultats que de la psychothérapie pure. Enfin, je dis pas qu'on peut faire l'économie de la psychothérapie, hein, mais qu'une fois qu'on a fait, voilà, qu'on a dégrossi vraiment le fond, le développement personnel, avec son offre ultra riche et infiniment multiple, amène des outils quand même qui aident vraiment mieux à changer sa vie, à prendre sa vie en main et à faire des choses, quoi.
Ouais.
À se sentir vraiment mieux. Et donc, oui, après, à travers le développement personnel, ben, je suis arrivée à la spiritualité, en fait. Puis je faisais déjà du yoga depuis aussi l'âge de 14 ans, 13 ans. Enfin voilà, donc tout ça, tout est venu en fait en même temps. C'est tout à fait son chemin en sous-marin pour aboutir à mon activité d'aujourd'hui qui en fait regroupe tout ça. Mais c'est vrai que c'est même pas un long chemin, c'est plein de longs chemins qui se sont faits sous la terre avant de germer. En passant, oui, effectivement, par la santé d'abord pour les plantes, puis ensuite la spiritualité, puis les pierres. Après, je me suis intéressée au féminin. Donc, j'ai fait une formation pour accompagner les femmes en particulier. Et puis, j'ai fait des cercles de femmes. Et puis, je suis devenue Moon Mother, la formation de Miranda Gray. Enfin bref, voilà, dans un ensemble de choses très riches et très multiples. Et les pierres et les plantes, bah c'est un peu mon médium préféré, quoi.
Ouais. Une chose que tu as partagée et qui est souvent dit des femmes, c'est que elles parlent beaucoup, mais elles n'agissent pas beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est plus dur, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour elles de mettre en action dans leur vie, dans la matière, lorsqu'elles ont un projet. Toi, aujourd'hui, t'es passée de l'aide au niveau développement personnel et au niveau humain à ce qui pourrait être, en fait, uniquement de la matière, étant donné que ce que tu proposes dans ta boutique, ce sont des objets.
Mm-hmm.
Mais ce sont pas que des objets, ce sont des objets au service du développement et de tout ce que tu as pu apprendre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Tout à fait. Alors, en fait, c'est cette arrivée dans la matière, c'est aussi l'aboutissement de mon chemin personnel. Comme tu disais, j'ai commencé par faire quelque chose de pas matériel, de quelque chose de purement humain. Donc d'être psychologue, puis d'éduquer mes enfants, et j'ai aussi dirigé une école à un moment. Enfin, j'ai fait des choses dans l'humain pur. Et puis je me suis beaucoup donnée là-dedans et dans mon mariage. Et puis j'ai vécu aussi beaucoup dans l'ombre de mon ex-mari qui a eu énormément de succès. Mais évidemment, comme beaucoup de femmes, avec mon aide en fait et avec mon soutien. Et avec mon temps, et avec mon énergie, et avec mes connaissances, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez difficiles, oui, pour les femmes dans cette société, et dans beaucoup, j'imagine. Parce que, voilà, on n'est pas censé briller par soi-même. On a quand même appris à être très contente de faire les coulisses. Alors que, bon, on a aussi besoin de reconnaissance parfois et d'exister en tant que personne. Donc, moi, j'ai été beaucoup la femme d'eux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, la femme d'eux.
C'est ça,
voilà. La femme du médecin, la femme de l'avocat, la femme du notaire, ouais.
Voilà. Donc, voilà. Et je me suis beaucoup donnée, donc, humainement, dans mon travail, dans mon couple, dans la vie professionnelle de mon mari, dans l'éducation de mes enfants, jusqu'à leur faire l'école à la maison, même pendant quelques temps. Et j'ai beaucoup aimé ça, au fil de ces années, est né à l'intérieur de moi un rêve qui était de faire quelque chose de matériel. Un objet, quoi. Quelque chose que je puisse voir et toucher quand j'ai fini de travailler, en fait.
Ouais. Moi, ça me fait ça lorsque je fabrique quelque chose et que parfois, je repassais dans la pièce 50 fois juste pour...
Exactement, voilà.
Tu dis, à chaque fois que je passe, je dis, oh là là, c'est moi qui ai fait ça. Et puis je repars et je reviens juste pour le regarder encore.
Exactement. Mais après, c'était très gratifiant aussi au niveau humain de voir les gens aller mieux en thérapie avec moi. Enfin, c'était vraiment magique de voir des gens vraiment se transformer et tout. C'était gratifiant. Donc, c'est pas pour le côté gratifiant, c'est pour le côté matière. Parce que je trouve que, bon, je l'ai découvert après aussi en travaillant avec les femmes. Et ça, pour le coup, c'est quand même un vrai problème. C'est au-delà d'une difficulté, c'est vraiment un problème à dénouer. C'est que les femmes restent dans l'abstrait beaucoup et ont du mal. Voilà, elles ont plein d'idées, elles regorgent d'idées, elles ont une créativité qui est prête à exploser, mais qui n'explose jamais, qui ne passe jamais à l'action. Ah, mais j'ai toujours eu envie de dessiner, mais bon, je dessine pas. J'ai toujours eu envie de créer cette entreprise, mais bon, j'ai pas le temps. Et puis j'ai mes enfants. Et puis nanana. Il y a toujours une bonne excuse. Il y a toujours plein de choses pour nous rassurer, nous maintenir dans une zone de confort qui est une zone d'inconfort, en fait, qui nous vient de millénaires de patriarcat et de « tu te tais, tu restes dans ton coin, tu es discrète et tu te contentes de la gloire de ton mari et de tes beaux enfants ». Mais je pense que c'est pas une vraie zone de confort, c'est une zone de confort au très mauvais sens du terme. Et qu'en fait, quand je vois les femmes, enfin notamment quand j'ai travaillé avec quelqu'un qui formait les femmes à accompagner les femmes, et j'ai vu des femmes éclore et vraiment cette éclosion était nécessaire. Elles étaient bien plus épanouies quand elles avaient et des réalisations abstraites et des réalisations concrètes dans la matière, dans le monde, face au monde. Donc voilà, et de la même manière, à l'intérieur de moi, j'ai eu envie de faire des choses matérielles. Mais, évidemment, je suis une femme d'humain. Enfin, je ne peux faire que de l'humain, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, c'est venu avec ma passion pour les plantes et les pierres. Et en fait, je me suis mise à étudier dans différentes civilisations, depuis les Égyptiens, aux Mayas, aux Amérindiens, enfin, aux Atlantes. Voilà, vraiment, des civilisations reconnues ou non, disparues ou non. Et je me suis mise à étudier comment est-ce qu'ils utilisaient la matière naturelle, c'est-à-dire les plantes et les pierres, pour leur épanouissement personnel et spirituel. C'est-à-dire, quelles plantes étaient utilisées pour se relier à Isis, quelles plantes étaient utilisées pour célébrer Pachamama, tu vois, quelles pierres célébraient l'arrivée de l'été. Enfin, voilà, vraiment essayer de fouiller dans cette magie naturelle, ce contact que l'humain a toujours eu avec la nature, et qu'il a toujours amené à se développer lui-même, en fait. Donc voilà, là, j'ai vraiment trouvé le noyau de ce qui regroupait tout ce qui m'intéressait, et puis surtout qui tenait compte d'une chose très importante, que les femmes oublient souvent, et moi la première, hein, il y a pendant bien des années, alors plus du tout maintenant, mais pendant bien des années, c'est qu'on n'est pas de purs esprits. On n'est pas là à volter dans une vie spirituelle et tout, on est aussi un corps. Et jusqu'à preuve du contraire, on est 50% l'un et 50% l'autre. Et puis, on est peut-être même plus matière qu'esprit, on ne sait pas. En tout cas, on ne peut pas négliger comme ça la matière.
En tout cas, on est incarné. En tout cas, ça c'est sûr, on a un corps, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, on a besoin d'être touché, on a besoin de se réaliser, on a besoin de toutes sortes de choses qui se touchent.
Exactement, et puis toutes ces vibrations de l'univers nous ont bien créé là, bien palpable et bien présent, quoi. Et donc cet ancrage, je trouve qu'il est merveilleux et il est très spirituel en fait aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de revenir à ce que l'humanité a toujours fait, c'est-à-dire mettre du spirituel dans la matière. C'est-à-dire que, même les hommes préhistoriques, on l'a vu avec des peintures rupestres, etc., avaient besoin de signifier, de dessiner, de faire un lieu. Puis ensuite, on a fait des églises. Alors après, je prône pas la religion pour la religion du tout, mais je prône une spiritualité libre, c'est-à-dire comme chacun le ressent pour lui-même. Mais oui, on a toujours eu besoin d'un lieu, donc un lieu, c'est bien matériel. Les pierres, elles sont matérielles, les statues qu'on a créées, les idoles, c'est des choses qui quand même nous aident. Alors si on les prend pas, évidemment, au pied de la lettre, et qu'on tombe pas justement dans les travers des religions établies, je trouve que c'est un merveilleux moyen d'amplifier nos propres vibrations et de nous relier aussi à notre existence terrestre, qui est spirituelle par le fait même qu'elle soit terrestre, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des objets qui, en étant bien matériels, nous aidaient à nous élever. Donc avec, en regroupant, voilà, en fait, j'ai fait des recoupements, puisqu'il y a des pierres et des plantes qui ont été utilisées pour le même usage, et ça, c'est vraiment drôle à découvrir, pour le même usage dans des endroits du monde hyper éloignés, à notre connaissance, non en contact à cette époque. Après, bon, ça peut être controversé, mais voilà, en tout cas, comme par exemple la sauge ou comme par exemple la turquoise, c'est des pierres qui, de l'Inde aux Amérindiens, des siècles plus tard, ou des millénaires plus tard même, aux Égyptiens anciens, ont été utilisées pour les mêmes choses. Donc c'est bien que l'humain y a trouvé la même vibration partout. Donc moi, je pense qu'il y a d'une part une chose à laquelle on croit ou non, c'est-à-dire que la matière a elle-même une vertu spirituelle, ou vibratoire, ou énergétique, Alors, moi, je le pense, mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas y croire. Par contre, ce dont je suis quasiment sûre, c'est qu'en tout cas, cette matière porte comme une égrégore de toute cette intention humaine depuis des millénaires. C'est-à-dire, imagine cette turquoise, je ne peux pas imaginer qu'elle n'est pas encodée en quelque sorte. Même si, imaginons que même si au départ, elle avait eu aucune vertu particulière, ce que je crois pas, mais bon. Imaginons qu'elle n'en ait eu aucune. Après des milliers, des dizaines de milliers d'années avec tous ces humains qui lui prêtent la même intention, je peux pas croire que la pierre se soit pas chargée de cette vertu au fil du temps, tu vois. Donc dans tous les cas, je pense que oui, cette matière est vraiment, vraiment un moyen fabuleux de nous élever.
Comment est-ce que toi, tu parles des plantes et des pierres, comment est-ce que tu es allée les rencontrer ?
En fait, je pense que donc les plantes, comme je te disais, c'était en partant de la santé. Après, une espèce de familiarité. On s'est apprivoisé, les plantes et moi, si tu veux. Et maintenant, je sens effectivement le... Je sais pas, ça peut paraître curieux, mais je sens ce qu'une plante a à dire ou à donner. Enfin, je sais pas. Donc voilà, donc ça s'est fait tout seul avec les plantes. Ça s'est fait vraiment naturellement. Mais ça s'est fait aussi en parallèle avec ma propre rencontre avec ma matière, c'est-à-dire mon corps au niveau énergétique. Parce que j'ai commencé, donc comme je t'ai dit, j'ai fait du yoga à partir de très jeune. Mais ma vraie découverte énergétique de mon corps, ça a été le Qigong. Le Qigong, et enfin, à vrai dire, plus que le Qigong, le Healing Tao System de Mantak Chia, qui est enseigné en France notamment par Aïcha Siebert, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai fait une formation avec elle, et vraiment là, j'ai vraiment rencontré mon corps, et j'ai commencé à pratiquer au soleil, à pratiquer en me connectant à la terre, et à vraiment sentir toute la puissance spirituelle qu'il y a dans notre matière, qui passe par notre matière et qui s'amplifie par notre matière. Et du coup, ça m'a encore plus rapproché des plantes. Et les pierres, elles sont venues aussi assez naturellement, par les enfants aussi, un peu comme les plantes, parce que c'est quand j'ai fait l'école à la maison pour mes enfants pendant 2 ans, à un moment, on s'est intéressé à la géologie. Et du coup, avec mes enfants, on a commencé à vraiment s'y intéresser. Et très vite... on a voulu aller au-delà de la géologie, donc on s'est demandé un peu à quoi elles avaient servi dans les civilisations, et puis finalement, on a découvert la lithothérapie, et voilà, la porte était ouverte, et là, vraiment, alors ça, c'est vraiment ma passion, quoi. Si tu voyais mon visage quand j'ouvre une boîte de pierre et que je dois faire des amulettes, ce que je vends aujourd'hui, en fait, mais c'est pour moi, c'est... Mais d'ailleurs, la première amulette que j'ai créée, je l'avais créée pour vous, un groupe d'amis.
Et je l'ai encore d'ailleurs.
Très bien, la toute première, c'était une amulette féminin sacré que j'ai imaginée pour que vous puissiez la tenir dans votre main pendant nos petites vacances spirituelles à Bugarache.
Ouais.
Et voilà, c'était ma toute première réalisation avec des pierres. Après, j'ai toujours été très manuelle, en plus d'être très intellectuelle. J'ai toujours été trop, un peu trop tout, mais en tout cas, j'ai toujours eu plaisir à fabriquer des choses. Mais là, fabriquer des choses avec les pierres, ça a vraiment été une révélation pour moi. Quand je les touche, enfin, je les sens, c'est vraiment... c'est magique. J'adore les pierres. J'adore les pierres, elles me parlent, on se parle, on s'aime bien. Il y en a que j'aime pas trop au début, puis un an ou deux après, je les comprends. C'est curieux, hein. D'un coup, tu vois, il y avait des pierres qui me tentaient pas tellement, que j'utilisais pas du coup. Et puis en fait, 2 ans après, en en voyant une, d'un coup... La connexion se fait, quoi. Je me dis, ah, d'accord, toi, t'es là pour apporter ça. Et ça colle pas toujours avec la lithothérapie moderne, mais par contre, j'ai remarqué que ça colle toujours avec des recherches que je fais sur des anciennes civilisations et tout ça. Des choses beaucoup plus profondes, en fait, et qui existent depuis bien plus longtemps que la lithothérapie moderne, où je me retrouve quand même en général, hein, mais il y a quand même des choses quand on va chercher dans notre passé spirituel humain qui sont d'une richesse inouïe, inouïe.
C'est un peu comme les huiles essentielles, ça me fait ça moi lorsque certaines huiles essentielles qui au départ lorsque je les ai découvertes amenaient beaucoup d'inconfort.
Ouais. Et oui, comme la carotte par exemple, souvent qu'on n'aime pas au début et puis en fait quand on commence à sentir l'ancrage qu'elle apporte, ça devient
Ou l'hélicryse italienne aussi.
Ouais. C'est vrai, oui, qui sent un peu le plastique brûlé presque.
C'est ça. Et
une fois qu'on l'a connu, on l'adore.
La première fois que j'ai senti, j'ai trouvé que ça puait horriblement. <J'ai détesté. rire> et petit à petit, je l'ai apprivoisé, je l'ai tenu, je suis allée à sa rencontre. Et aujourd'hui, c'est une de mes huiles préférées.
Ouais, je comprends tout à fait.
Et je sais pourquoi je ne l'ai pas aimée au départ. Aussi.
Ah oui.
Ouais.
Oui, souvent ça vient nous trigger, quoi. C'est un trigger, un endroit qui ça vient nous chercher, un endroit qu'on a à travailler, quoi.
C'est ça. Et les pierres, c'est la même chose. C'est pourquoi est-ce que telle pierre tu l'aimes et telle pierre tu la trouves hideuse alors qu'elle est.
C'est juste, oui, elle est aussi belle qu'une autre.
Tu peux. Oui, c'est ça. Elle est aussi belle que l'autre, mais.
Ouais. Oui, ça parle plus de toi. De toi au fond que de ta réelle appréciation visuelle de la pierre. Ça parle de quelque chose de plus profond, bien souvent, ouais. Oui, c'est des vibrations, en fait. Si t'es pas sur le bon taux vibratoire, enfin, tu vois, à ce moment-là, elle va pas changer pour toi, la pierre. Elle est là depuis des millions d'années. Alors, moi, c'est quelque chose, ça, qui me fascine, de travailler avec des choses qui sont là, sous la terre, depuis des millions d'années. Enfin, ça me fait rire souvent les gens quand ils disent « Ah oui, mais j'ai porté ce bijou, il a été porté par ma grand-mère, donc il est chargé. » Non mais, un bon nettoyage et c'est terminé. Des millions d'années avant ta grand-mère, cette pierre était là. Et sa vibration, c'est pas un humain qui va la changer profondément. Alors oui, il peut y avoir comme des espèces de parasites, mais il faut quand même reprendre un petit peu conscience de reprendre notre humilité par rapport aux pierres qui sont là depuis avant les dinosaures. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, oui, il y a des rencontres que tu peux pas faire à certains moments, que ce soit effectivement avec des huiles essentielles, avec des pierres. D'ailleurs, je travaille aussi avec des huiles essentielles maintenant, que j'associe à des pierres, d'ailleurs, pour donner des petits élixirs vibratoires. Et les huiles essentielles, oui, c'est... Et elles font pas dans le détail, quoi. C'est du concentré de concentré. Donc, si t'es pas prête à ce moment-là à gérer cette part de toi ou à te connecter à cette énergie-là, tu vas pas l'aimer, quoi.
Ouais. Enfin, tout dépend comment tu abordes les choses. Soit l'aborder en résistance, soit l'aborder en OK. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi, qu'est-ce que ça vient me dire de ce qui se passe autour de moi et comment est-ce que j'accueille cette partie que j'ai pas envie d'accueillir.
Ouais. Ben ça, c'est tout le chemin qu'on a à faire dans la vie. Hein. C'est cette maturité qu'on acquiert peu à peu, d'être capable de, au lieu de se dire face à ce qui nous est étranger au niveau de notre ressenti, ne pas se dire « Oh ben je rejette », mais se dire bon ben voilà pourquoi je me on fait tous partie du tout, donc pourquoi cette pierre là c'est la vraie question, c'est la maturité qu'on a tous à acquérir et c'est ça qui rend le chemin intéressant, c'est de se dire, c'est comme quand on voit une œuvre d'art qu'on déteste, évidemment quand on a 15 ans on va dire ah c'est moche, mais il faut espérer que quand on en a 45 on se dise tiens, pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui vient me déranger? J'aime beaucoup être dérangée par cette œuvre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les œuvres d'art, quand elles me dérangent. Donc, la première chose qui vient, mon enfant intérieur dit « Ah, c'est pas beau !» Et là, il y a quand même une part plus sage, la vieille femme sage en moi, qui dit « Eh ben, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui se passe? C'est drôlement intéressant de trouver que c'est pas beau. » Et je suis d'accord avec toi, c'est très intéressant de réfléchir plutôt comme ça. Ouais.
Et du coup, lorsque tu fait tes amulettes et tes huiles, dans quel espace est-ce que tu te mets? Dans quel est-ce qu'elles t'apparaissent? Est-ce qu'elles, tout d'un coup, elles t'appellent? Est-ce que
quand je les crée, tu veux dire quand je
oui,
les conçois?
Oui, quand tu les crées, c'est ça.
Parce qu'il y a deux choses. Il y a la conception, puis il y a la fabrication. Donc, la conception, ça m'est vraiment venu, quoi. Ça m'est vraiment venu au moment, justement, de nos vacances à Bugarache. Je m'étais dit... ça m'était venu, cette amulette d'intention qui s'accroche au doigt et qu'on peut tenir au creux de la main sans qu'elle tombe. C'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé à 100%, quoi. Je me suis dit, on a besoin de ça. Et les pierres, en fait, si tu veux, c'est un peu comme un semi-rêve. C'est vraiment un travail d'inspiration. En fait, je peux être en train de faire n'importe quoi. Et puis d'un coup, je vais me dire, oh, une amulette, je sais pas moi, courage. Et puis j'ai des pierres qui me viennent. Alors après, je vais voir dans mes... Après, je fais le lien aussi avec le mental, hein. Je vais voir dans mes civilisations et tout, si je suis à peu près raccord. Parfois, je le suis pas, mais je l'assume, hein. Je me dis, bon, bah, là, vraiment, je sens que ça irait bien avec ça. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que parfois, en fait, c'est pas tout à fait raccord parce qu'en fait, c'est complémentaire. Tu vois? Par exemple, dans une amulette confiance en soi, j'avais hyper envie de mettre du saphir. Et bon, aucun lien, enfin, entre le saphir et la confiance en soi, hein, c'est pas une pierre d'ancrage, ni de rayonnement, ni rien. Et en fait, le saphir, elle est là, et il est là pour apporter l'humilité. Il vient compléter mon amulette confiance en soi, tu vois. C'est la dernière pierre que j'ai mise. Et donc sur les fiches, parce que tous nos produits sont vendus avec une fiche où on explique vraiment dans les civilisations et tout et tout. Et donc en dernier, il y a le saphir où je dis bien, c'est là pour nous rappeler qu'on prend confiance en nous, mais ça veut pas dire explosion de l'ego, quoi. Ça veut dire on reste intègre, tu vois. Donc en fait, c'est les choses s'organisent bien et toutes seules, en fait. Ça marche. En fait, c'est là que tu vois que tu es dans le flow. Parce qu'en fait, ça fonctionne. Les choses fonctionnent. Et ça, c'est quand même drôlement agréable dans une activité professionnelle. Tu vois, que tout fonctionne. Ça va de soi-même et c'est fluide, quoi. Ça, c'est pour la conception. Donc, c'est quelque chose d'assez fluide et qui me vient un peu... qui me vient un peu du ciel, tu vois.
Et de la terre.
Voilà, qui me vient un peu autour de moi, en fait, comme s'il y avait ma ouais. femme sauvage, tu vois, qui tournait autour de moi et qui, de temps en temps, m'envoie des idées de choses naturelles à faire. Et la deuxième partie, c'est la fabrication, qui, elle, donc, ne demande pas d'inspiration, hein, puisque les produits, après, sont conçus et on les reproduit pour pouvoir les en fournir... on essaie de maintenir un stock correct.
Ouais.
Mais la fabrication, c'est aussi quelque chose de spécial parce qu'en fait, je pense à l'intention pendant que je fabrique. Mais genre, vraiment, quoi. C'est-à-dire, je fais un truc ancrage. Et ça, ce qui m'aide beaucoup, c'est que surtout nos produits, on a voulu mettre le nom. Le mot, tu vois, par exemple, pour un produit ancrage, il faut que ce soit écrit ancrage. Vraiment. On a voulu faire ça par rapport à... Ça nous a paru évident, mais tu sais, ça fait penser aux travaux de Emoto.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Sur l'eau. Je trouve ça hyper important de l'eau, au niveau vibratoire, même si c'est des pierres, c'est pas de l'eau. Mais je pense que si les mots agissent au niveau vibratoire sur l'eau, ils doivent agir aussi sur un peu toutes les matières quand même. Et je trouvais ça super important que ce soit écrit et que ça reste sur la création, tu vois. Et donc, ce qui fait que quand je fabrique, ben, en fait, j'ai sans arrêt sous les yeux les étiquettes et je relis sans arrêt ce mot. Comme ça, si jamais je pense à autre chose, de toute façon, ça va m'y ramener. Et donc, de toute façon, quand t'es en train de manipuler, enfin là, je parle d'ancrage, par exemple, t'es en train de manipuler, par exemple, si je fais une bougie ancrage, je vais manipuler du figuier. Enfin, je veux dire, quand tu vois une feuille de figuier, enfin, l'odeur du figuier, moi qui suis maintenant très familière, comme je le disais, avec les plantes, je pense figuier, je ne peux pas ne pas penser, tu sais, aux racines de ficus là, qui sont dans les ruines d'Angkor, dans les ruines des vieilles cités d'Asie. Voilà, pour moi, le figuier, c'est vraiment l'enracinement. Ces énormes racines qui peuvent soulever des routes ou des murets. Et dans l'autre main, j'ai du jaspe rouge, enfin, qui vibre vraiment l'ancrage, le premier chakra. Donc voilà, quand je fabrique, je me mets vraiment dans l'intention et dans l'énergie de ce que je suis en train de faire. Donc je pense pas à bougie, mais je pense ancrage, tu vois. Et souvent, je réfléchis à mon propre ancrage. Je tourne vraiment autour de la question. Oui, c'est très complet, hein.
Du coup, j'étais en train de t'imaginer en train de fabriquer les bougies et les bijoux. Et ce qui m'a interpellée là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en même temps, tu penses à ton propre ancrage. Du coup, j'ai l'impression que l'intention qui est dedans, c'est pas seulement l'ancrage ou l'intention première, c'est la continuité du processus. Lorsque tu fais ton amulette, tu es en lien avec l'intention et tu es en lien avec comment cette intention et comment ce mot résonne en toi. Comme si le processus était encore en cheminement. Et du coup, dans l'amulette, il y a l'intention et le processus qui amène vers cette intention. Qui sont inscrites de par le processus que tu continues d'avoir en fabriquant l'amulette. Est-ce que je sais pas si j'étais claire,
mais... Ah non, mais ça me parle, oui, j'avais jamais pensé, mais ça me parle beaucoup, oui. Ça me parle beaucoup parce que, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à quand on éduque des enfants.
Ouais.
On continue d'éduquer l'enfant qu'on a été aussi. On continue, tu vois, par identification et par plein de processus psychologiques. On travaille aussi avec notre enfant intérieur. Et ben, effectivement, je trouve que c'est assez similaire, oui. Tout à fait, quand je suis en train de faire une fiole élévation vibratoire, il est évident que je ne suis pas un bodhisattva désincarné, enfin, tu vois. Donc évidemment que je travaille aussi à mon élévation vibratoire pendant que je suis en train de faire la fiole. Et c'est vrai que du coup, ça inclut un mouvement, en fait.
C'est ça.
T'as raison, oui, un mouvement, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, tu vois, que... Parce que je me disais, là, cet été, j'ai eu l'immense plaisir de, pour la première fois depuis les 9 mois de la jeune existence de notre entreprise, j'ai eu pour la première fois le plaisir de voir mes clients, en vrai. Parce que j'ai eu un stand dans une retraite où je suis allée, avec Educa 3000, c'était fabuleux. Et c'était une retraite, d'ailleurs, qui s'appelait « Célébrer la vie ». C'est quand même assez agréable d'aller à une retraite qui s'appelle « Célébrer la vie ». Et parmi ces célébrations de la vie, l'équipe organisatrice m'a demandé d'installer un stand Miracles Happen parce qu'ils voulaient que ces produits soient là et, voilà, et contribuer aussi à nous aider à nous faire connaître. Ce qui a été vraiment une chance inouïe pour nous, déjà, de nous faire connaître, simplement. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer, c'est à quel point ça a été une chance pour moi de rencontrer pour la première fois en vrai les gens face à nos créations. De voir les yeux briller, de voir les gens toucher. Il y avait beaucoup de gens qui étaient chamans ou guérisseurs, enfin qui étaient vraiment dans la partie, disons. Et les avis ont été unanimes. J'étais extrêmement touchée et vraiment très reconnaissante d'entendre ça, que le taux vibratoire et l'énergie dégagée par nos créations était super forte. J'étais vraiment super contente de ça et en même temps un peu étonnée. Enfin, parce que quand on fait soi, on peut pas s'empêcher de se dire bon bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Alors que là vraiment, c'était les avis étaient vraiment très très positifs. Et en fait, je pense qu'il y a une part de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a aussi le mouvement, il y a aussi tous les changements qui... Le fait même d'être en train de processer et d'évoluer, qui est aussi dedans. Moi, ce que je m'étais dit aussi, c'est que... Alors, c'est très flatteur d'entendre des belles choses sur ce qu'on a créé. Mais après, si je mets de côté mon ego flatté, tu vois, et que je pense réellement, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Quand quelqu'un met comme ça tout ce qu'il est, tout son cheminement, tout ce qui processe en lui dans un objet, c'est normal aussi que ça vibre, quoi. Tu vois, quand je vois, moi, l'énergie que j'ai déployée dans cette entreprise, dans chaque objet, quand je vois comment je les fabrique, quand je vois comment je les ai imaginés, après tout, je me dis, c'est normal. Enfin, je suis quand même un être fait de vibrations, un être, une âme qui est venue s'incarner là, et si elle arrive à réaliser quelque chose d'abouti pour elle-même, c'est normal que ça se ressente, quoi. Donc oui, il y a certainement du processus dedans, oui. Du cheminement.
Ouais. Et en plus, ce sont des objets qui sont beaux et délicats, je trouve.
Merci. Oui, on a essayé de faire une esthétique quand même très pure, en fait. Juste la plante, la pierre, du blanc, du noir, voilà. Du craft, de pas partir dans un côté trop artificiel, tu vois. Rester vraiment sur la puissance de la pierre, la puissance de la plante, c'est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter des petits papillons et des étoiles. C'est en soi, ça a toute sa force, quoi.
L'essentiel.
Ouais. Ouais, tu vois, avec écrit, juste écrit ce que c'est. Voilà, pas rajouter de fioritures pour vraiment pas du tout polluer, en fait, l'énergie de ces cadeaux de la nature qui se suffisent à eux-mêmes.
Et quelqu'un qui commanderait quelque chose, une amulette ou une bougie, comment tu proposerais de l'approcher? Comment tu proposerais à cette personne d'approcher l'objet?
Tu veux dire de l'utiliser?
Oui, de l'approcher. Plus que de l'utiliser, de rentrer en connexion avec, de comment est-ce que tu proposerais à cette personne d'arriver à rentrer en résonance avec la vibration, justement, de cet objet. Je reçois mon amulette dans une jolie petite boîte.
Ouais.
Et je la sors. Voilà. Elle est devant moi. Comment est-ce que je vais à sa rencontre?
Je pense déjà par... Ça dépend de la personne. Soit déjà au niveau vibratoire, la personne est expérimentée, elle va sentir l'énergie qui s'en dégage. Après, si la personne est un peu moins sensible, ou sensibilisée au moins, je pense que passer déjà par la vue, voilà, qu'est-ce que ça m'évoque, ces couleurs, qu'est-ce que ça fait naître en moi, ressentir par la vue, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, sentir au niveau tactile, enfin, au niveau de nos mains, quoi, ou de notre corps, les vibrations, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui s'acquiert quand même pour la plupart des gens. Alors, il y a des gens chez qui c'est naturel, mais la plupart des gens quand même, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des expériences. Par contre, la vue, voilà, on est a priori, enfin, tant que ça fonctionne, c'est quelque chose par lequel on peut passer, et les couleurs, elles ont une vibration et elles éveillent des choses en nous. Même si on n'a pas conscience des vibrations, voilà, le bleu va être plus calmant que le rouge. Il n'y a pas besoin d'avoir de sentir les vibrations pour le ressentir, tu vois. Ou voilà, l'ancrage le courage va être plus évoqué par du rouge aussi, ou du noir, du marron, enfin des couleurs vraiment qui t'ancrent à la terre. Je pense que presque universellement, c'est quelque chose qu'un humain va sentir plus que du bleu ciel, tout simplement parce que c'est la nature qui nous entoure. Le ciel, il est là-haut. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'images divines, enfin, autour de tout ce qui est divin, qui vont être très claires, très blanches, très bleues, du jaune. Voilà, mais le bleu, le blanc, c'est le bleu, le blanc, le jaune, c'est le ciel. C'est les nuages, c'est le soleil et c'est le bleu du ciel. Donc déjà visuellement, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Après, je pense que c'est... Et là encore, je lutte pour la réhabilitation de la matière, du mental, etc., ce ne sont pas nos ennemis. C'est la moitié de ce que nous sommes. Notre ego, c'est quelque chose de très important.
Et très utile.
Mais bien sûr, notre mental, c'est très intéressant. On prend son mental et on va lire la fiche. On va comprendre avec son intellect, parce que tout est lié. Tout est lié. Vous allez lire et en lisant, ça va éveiller des choses qui, elles, ne seront pas mentales. Donc je pense qu'il faut profiter de notre matière, de notre mental, de toutes ces choses qui sont très décriées dans le milieu du développement personnel et surtout de la spiritualité. Je pense pas du tout que ce soit des ennemis, je pense au contraire que c'est des alliés. Il faut juste les apprivoiser, les mettre à notre service. Plutôt que de les subir. Sûr que si on est que dans le mental, ah ben oui, mais elle dit ça sur Cléopâtre, et nanani, moi je m'en fous de Cléopâtre, c'était il y a longtemps, je sais pas quoi, bon ben là ça n'a aucune utilité pour vous, quoi. C'est du mental qui dit moi, tout ce que je peux pas toucher, j'y crois pas, voilà. Bon, ça, effectivement, c'est peut-être que c'est vrai. Peut-être que tout l'invisible n'existe pas. Mais en tout cas, à quoi ça vous sert de penser ça? Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous vous dites ça? Parce que moi, quand je me dis ça, je me sens pas mieux. Hein. Parce que, clairement, c'est une pensée qui ne me sert à rien. Donc voilà, c'est des choix qu'on fait. Donc je pense qu'on peut mettre notre mental à notre service, aller lire la fiche, se connecter à, voilà, comment ça nous fait rêver? Comment ça réveille des parts de nous? Cléopâtre, qu'est-ce que ça éveille en nous? Comme je disais tout à l'heure, Pachamama, une déesse comme ça de la terre, une terre-mère, qu'est-ce que ça éveille en moi? On peut passer par le mental aussi, tout comme on peut passer par la matière pour aller dans le spirituel, on peut aussi passer par le mental. Donc voilà, c'est ce qui me vient là quand tu me demandes comment approcher l'objet si on n'est pas trop familiarisé avec des objets spirituels. Ben simplement, déjà la vue et puis le mental.
Et ensuite la toucher.
Après, voilà. Après vient le contact. Le contact, faire une méditation peut-être sur le sujet. On a aussi une chaîne YouTube où on met des méditations que j'écris et qui sont sur des thèmes qui correspondent quand même toujours à nos créations. Donc, tu peux faire une méditation sur ce sujet ou simplement, par exemple, admettons que ce soit une amulette, je sais pas, lâcher prise, que tu es dans ta main. Tu prends ton amulette lâcher prise. Donc, déjà, les couleurs sont évidentes du lâcher prise. C'est dans une gamme de bleu, c'est apaisant, etc. Donc, je pense que ça va t'évoquer ça déjà. Lire l'affiche, ça va t'expliquer pourquoi, comment et tout. Comme ça, ça met ton mental, ça le met en position d'allié. C'est-à-dire qu'il se dit pas, ah, mais je fais n'importe quoi, je me relie à des cailloux. Non, non, non. Tu viens de lire une fiche, tu sais pourquoi ces cailloux-là. Tu sais pourquoi, tu vois. Il a besoin de ça, s'il a besoin de ça, il n'y a pas de problème. On peut l'apprivoiser et lui donner à manger, tu vois. Pour éviter qu'il ne nous mange nous,
ouais.
On peut le nourrir. Et à ce moment-là, il va dans le sens qui est le meilleur pour nous, quoi. Et ensuite, oui, ben voilà, la prendre dans la main, ton amulette, et ressentir. Te connecter à cette idée de lâcher prise. Et sentir, qu'est-ce que tu sens si tu imagines, l'imagination aussi. L'imagination, c'est un petit peu du mental aussi, hein.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à dire, ah, moi, je sais pas visualiser. Mais si, tu sais visualiser, tout le monde sait imaginer. Il suffit d'imaginer avec beaucoup de concentration et ça s'appelle de la visualisation, tu vois. Donc, tu te mets là et puis voilà, tu imagines. Si tu penses que tu ne peux pas visualiser, mets le mot imaginer, si c'est plus confortable pour ton mental. Et voilà, tu imagines que tes pensées, ben voilà, les pensées qui te perturbent partent comme des nuages. Et tu sens ton esprit s'alléger. Et tu sens les pierres qui infusent dans tout ton corps leur énergie et qui nettoient et qui libèrent. Et voilà, et peu à peu, tu vas t'ouvrir. En faisant ça, tu vas te rendre plus sensible et peu à peu finir par sentir réellement l'énergie de tes pierres, même quand tu n'es pas en mode lâcher prise. Tu t'affines, en fait. C'est tout ce que nous apporte la méditation et toutes ces pratiques psycho-spirituo-corporelles. C'est s'affiner, affiner son contact avec son âme.
Et c'est une perception.
Tout à fait.
Écoute, super. Je te remercie infiniment, Florence, pour ce temps partagé.
Eh bien, merci à toi. C'était avec plaisir.
Pour te trouver, pour trouver ces
pour
belles
me trouver et trouver donc Miracle Safran. Donc pas que moi, hein, puisque même si c'est moi qui ai inventé tous ces produits, on travaille à deux. Et Dieu merci, parce que j'aurais été bien incapable de faire toute la partie informatique, administrative et tout ça. Enfin, pas bien incapable, mais bien peu intéressée par l'idée de le faire. Donc, bien incapable de m'y contraindre. Donc, je travaille avec ma collaboratrice, Céline, qui fait plein de choses qui ne se voient pas, qui se voient moins que ce que je fais, en tout cas, mais qui sont tout aussi
indispensables.
Complètement indispensable. C'est-à-dire que moi, j'aurais imaginé tout ça, mais ça ne serait pas arrivé sur Internet. Voilà. Et donc, nous avons une, j'espère, jolie boutique sur Internet qui s'appelle miracleshappen.fr. Donc, miracle comme un miracle, happen comme arrive, les miracles arrivent. Et voilà, et on est assez active sur Instagram, où je publie à peu près tous les jours, plein de, voilà, d'intentions, de bonnes idées, de choses de notre vie et de toute la vie des pierres et des plantes autour de nous. Et voilà, donc bienvenue pour une petite visite sur notre boutique. Et puis on a aussi donc une chaîne YouTube, mais qui est accessible par la boutique, et sur le site de la boutique aussi un blog où on fait des, où là j'écris des articles vraiment complets sur des thèmes autour du développement spirituel et personnel.
Super,
c'est tout.
Merci Flo.
Et ben merci à toi, Joël, de faire ces beaux podcasts qui mettent en valeur des vies de femmes.
Avec joie et grande gratitude. Ouais.
Pareil.
Bah, bisous à tout le monde, à toutes, à toi, et puis, la semaine prochaine.
Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un Instant Une Vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie.